Bonsoir tout le monde, bienvenue, ravi qu'il y a tant de gens qui viennent écouter. Daniel Ramirez va nous expliquer un peu le contexte de l'œuvre, nous ramener aussi un peu au temps de Bach pour comprendre mieux pourquoi et comment et pourquoi Bach a écrit cette œuvre-là de cette façon-là et nous dévoiler quelques secrets de cette magnifique œuvre. Donc, Daniel, il est musicologue, hein, je dis bien.
Non.
Non, pas.
Ah non.
Ah.
Ça tombe mal.
Ah, c'est chose que je dis, c'est pas vrai.
Bon, je suis philosophe.
Ouais, philosophe.
Ça, c'est bon. Bien, ça, c'est bien.
C'est encore mieux.
Et
aussi,
ouais. Compositeur.
Bon,
merci. Merci beaucoup de cette invitation. Alors, il y a beaucoup d'approches différentes qu'on pourrait faire pour parler de cette œuvre, ou pour parler de la musique sacrée de Bach, ou pour parler de la réforme luthérienne. Enfin, il y a quand même beaucoup de thématiques qui pourraient s'entrecroiser. D'ailleurs, il me semble intéressant de se poser la question d'abord, on aurait pu d'ailleurs mettre un titre comme ça, parce que je fais beaucoup de conférences de philosophie politique et éthique qui n'ont rien à voir avec la musique et encore moins la musique sacrée. Et j'entends dans la société actuelle d'ailleurs parler beaucoup, même d'une façon obsessionnelle, de laïcité. Et on dit que la société actuelle est une société désacralisée, sécularisée. Donc c'est l'expression la plus exacte en réalité. Donc c'est une vraie question de se demander dans quel sens une œuvre religieuse peut être comprise aujourd'hui et peut être donnée à comprendre, à ressentir des choses. Et comment peut-on l'aborder en sachant que ça va faire presque 3 siècles que cette œuvre a été composée et donnée. 3 siècles, ça sera dans 7 ans. En 2024, il y aura exactement 300 ans. Alors imaginez le monde, ça fait 3 siècles en arrière, c'est-à-dire en 1724. 23-24, quand est-ce qu'il a exactement composé, on ne sait pas, mais on sait que c'était dans cette année, la première année où il était à Leipzig, en tant que cantor, c'est-à-dire chef de chœur, et aussi chef de musique dans l'église, ce qui signifiait enseigner, maintenir une chorale, et créer des œuvres, bien sûr, des œuvres pour la liturgie. Il faut imaginer cette société luthérienne du début du XVIIIe siècle en Allemagne. Comment elle est et combien elle est différente de notre société, de notre monde actuel. En sachant que la réforme, elle avait déjà 2 siècles presque. Donc ça avait déjà eu le temps de constituer un monde idéologique. Et les grandes œuvres, il faut les comprendre à l'intérieur d'un monde d'idées, idéologique ça ne sonne pas très bien, mais d'un monde d'idées, d'un monde intellectuel, d'un contexte philosophique, d'un contexte des langages et des symboles qui sont de son monde. En même temps, nous savons, et c'est un lieu commun, de dire que les grandes œuvres transcendent leur temps. Et s'ils transcendent leur temps, c'est-à-dire qu'ils vont au-delà, est-ce qu'on m'entend bien derrière? Donc si ça va au-delà de son temps, ça va au-delà aussi de son univers philosophique et de son contexte idéologique. Et d'ailleurs, j'avais donné pour le petit texte que vous avez mis sur, pour la presse, une phrase qui est un peu... Bon, une phrase pour journaliste. Hein. Elle dit, si on devait compter avec les doigts de deux mains les très grandes œuvres de toute l'histoire de l'humanité, et il faudrait inclure dans ces dizaines d'œuvres au moins une des passions de Bach. Et alors, quand on dit que les grandes œuvres de l'histoire culturelle de l'humanité, c'est quand même beaucoup dire. Ça implique depuis... d'ailleurs, des œuvres ne sont pas forcément des œuvres d'art. Hein. Par exemple, les pyramides d'Égypte, ça va des pyramides d'Égypte à la théorie de la relativité. Eh bien, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. L'invention de l'imprimerie, combien de choses. Et on va vite voir que les dizaines de doigts de la main sont vite passés. Donc, lorsque j'affirme qu'il faudrait inclure au moins une des passions de Bach, et là, c'est au choix du goût et de la sensibilité. Et d'ailleurs, c'est un choix philosophique, on va entrer un tout petit peu dans la comparaison des deux passions, c'est important, parce que vous allez faire celle de Saint-Jean. C'est important de savoir que les deux sont différentes et qu'ils sont orientés vers une autre idée. Bon, pas une autre, mais il y a une différence importante. Alors, comment pourrait se faire que cette œuvre puisse... faire partie d'un palmarès aussi élevé, aussi haut, et bien tout simplement, je vais m'expliquer parce que c'est un parti pris, tout simplement parce qu'il me semble que ces deux passions, et chacune d'elles en fait, constituent une synthèse monumentale de quelque chose que je mentionnerai comme l'essence du christianisme. Alors c'est un peu osé parce que, bien sûr, c'est le christianisme réformé, c'est le protestantisme. Mais en réalité, si bien que je dis entre Saint-Jean et Saint-Matthieu, par exemple, il y a une différence, entre le protestantisme et le catholicisme, il y a aussi une différence qui est très importante, mais en réalité, ces différences-là découlent de quelque chose qui est, dès le départ, dans le christianisme, dans l'histoire intellectuelle du christianisme. Ça vient de Saint-Augustin. L'élan vers une interprétation spirituelle du christianisme, intériorisée, voire mystique, ou une interprétation rationaliste qui est orientée vers les œuvres et vers la puissance aussi, qui est l'interprétation plutôt de saint Thomas d'Aquin qui va s'imposer chez les dominicains et chez les jésuites. Vous allez avoir cette polémique en France avec les jansénismes, d'une part, qui est l'orientation augustinienne proprement, et le catholicisme jésuite pour ce qui est de l'orientation thomiste ou rationaliste. Quand je dis rationaliste, vous allez voir que l'augustinisme est un anti-rationalisme d'une certaine façon, puisque Augustin s'opposait dans son temps aux écoles philosophiques grecques. Donc il y avait le grand rationalisme athénien, Socrate, Platon, Aristote et les écoles post-aristotéliciennes, c'est-à-dire les stoïciens et les épicuriens, qui avaient conformé d'une certaine façon le monde idéologique grec et par la suite romain, si bien que pour les Romains, c'est plutôt le stoïcisme qui s'est imposé. Et donc Augustin, au 3e siècle, pardon, 3e siècle, Thomas d'Aquin, c'est le 13e siècle, Saint-Augustin ou Augustin, moi, j'hésite toujours à utiliser l'appellatif saint, surtout pour un penseur hein, qui est un philosophe et qui avouait lui-même n'avoir pas été très saint dans sa jeunesse. Hein, c'est assez mignon quand on lit les confessions d'Augustin. Il y a un épisode très croustillant du vol de poires. Hein, ils ont volé des poires du voisin. Or, il se trouve qu'Augustin était, le père d'Augustin était producteur de fruits et il avait des poiriers dans sa petite ferme. Et les poires du père d'Augustin étaient les meilleures, étaient réputées. Donc, aller voler des poires et Augustin les décrit d'une façon extrêmement croustillante. les poires du voisin étaient mauvaises, étaient toutes rabougries, mais le fait de les voler leur donnait un goût absolument incomparable. Et c'est génial parce que vous voyez un saint qui commence pour raconter ça, il dit voilà, donc j'ai goûté au péché, en réalité c'est ça. J'ai goûté au péché, nous n'avons pas été saints toujours. Et puis finalement, les confessions d'Augustin, c'est un très très grand travail d'intériorisation. Il raconte ce qui lui est arrivé, comment il a rencontré les sentiments intimes, le sentiment de culpabilité, le sentiment d'être dans la faute, d'être dans une sorte de brise, de cassures intérieures. Et en essayant d'aller au plus profond et au plus profond de cette gouffre, de ce gouffre qui est le soi déconnecté et extrait du Créateur, eh bien, au fond de ce gouffre, on trouve Dieu, on trouve la lumière. Le fond de l'intériorité, c'est le Créateur. Et ça, c'est, pour ainsi dire, le message radical de l'augustinisme. Et ce courant va alimenter de l'intérieur toute l'histoire du christianisme, tout en ayant une autre partie, on peut dire toutes les deux découlent d'ailleurs de saint Paul, mais bon, je ne veux pas entrer dans une théologie, dans une histoire théologique du christianisme que vous pouvez trouver d'ailleurs facilement dans des bons livres. Mais ce qui est étonnant, c'est que si bien l'impulsion augustinienne va vers l'intérieur et vers le ressenti dramatique de la faute, du fait que l'homme est un être extrait de son milieu naturel, pour ainsi dire, ce qui d'ailleurs nous ramène à l'histoire de l'hominisation de l'homme, à l'histoire que la science elle-même nous raconte, c'est-à-dire l'homme est un animal toujours, mais il était un animal comme les autres pendant des millions et des millions d'années. Il s'est extrait peu à peu de cette animalité, et quand on dit animalité, on peut dire aussi de cette harmonie cosmique, de cette harmonie naturelle, aujourd'hui on dirait de cette écologie, hein, qui est la grande histoire de l'évolution des êtres vivants. Donc finalement, le christianisme est une version idéologique, est une version philosophique de quelque chose que nous avons tous quelque part dedans. Le fait que l'homme s'est défini, l'être humain s'est défini pour le fait d'être extrait de quelque chose, hein, extrait de la nature, pour ce qui est de l'histoire naturelle telle que le darwinisme la comprend, extrait de la création, extrait du fond harmonieux du Créateur, selon le récit biblique. Le récit biblique est commun aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans d'ailleurs. C'est-à-dire, cette histoire est partagée par les trois grandes religions monothéistes. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans ce troisième siècle avec Augustin, et ensuite, d'ailleurs, siècle caractérisé, la réflexion d'Augustin est caractérisée par les invasions barbares. Vous savez, c'est l'Empire romain qui est fraîchement christianisé, assailli de toutes parts par ce fameux barbare qui menaçait l'unité de l'Empire. Donc, et l'unité de l'Empire pour Augustin était l'ordre. Et l'ordre politique, l'ordre de la cité des hommes, bien gouverné, équilibré, où tout est à sa place, est menacé par ce chaos, cette altérité, cette chose qui vient d'ailleurs. Aucun rapport avec des choses qu'on entend aujourd'hui d'une façon obsessionnelle aussi dans la société actuelle. Hein. Les barbares qui viennent d'ailleurs, qui sont aux portes de l'Europe. Et c'est assez flagrant quand même, comme les choses se recoupent. Mais en tout cas, Augustin va produire, à cause de cette contingence historique, une théorie qui est très importante pour l'histoire des idées mondiales, qui est la théorie de la guerre juste. Hein, c'est un premier philosophe à justifier la guerre quand cette guerre est pour la bonne cause, c'est-à-dire protéger l'ordre contre le chaos qui viendrait d'ailleurs de ces gens qui sont sans Dieu, qui sont sans foi ni loi. Voilà, maintenant, laissons un peu Saint-Augustin. Je vous disais que tout simplement, ces deux courants alimentent de l'intérieur toute l'histoire du christianisme et sont très puissantes. Si on caractérise le catholicisme comme un univers et entièrement hiérarchique, c'est une hiérarchie d'abord divine, c'est-à-dire c'est Dieu, les armées célestes, c'est-à-dire les anges, et puis son représentant, sur terre, le pape, les archevêques, les évêques, les chanoines, enfin toute la hiérarchie ecclésiastique jusqu'aux fidèles, qui est fidèle que, à leur tour, reproduisent la structure hiérarchique par le roi, les princes, les nobles, les artisans, les paysans, jusqu'aux esclaves quand cela a été mis. Donc, un monde entièrement hiérarchisé, dans lequel, pour accéder à un niveau supérieur, il faut passer par les niveaux précédents. Hein. Vous n'allez pas voir l'archevêque si vous n'êtes pas allé voir le curé. Vous n'allez pas voir l'archevêque si vous n'allez pas passer par l'évêque, etc. Et puis, évidemment, vous n'allez pas voir les papes comme ça. De la même façon, on ne s'adresse pas au roi, on s'adresse au baron, on s'adresse... voilà. Et ce monde hiérarchisé, c'est le monde du catholicisme, pour ainsi dire. Et dans ce monde, pour se sauver, pour avoir le salut de l'âme, qui est la grande affaire du christianisme, mais ce n'est pas seulement la grande affaire du christianisme. C'est pour ça que quand je vous disais, là vous allez voir pourquoi ce top 10 des grandes productions de ce qu'on appelle l'espèce humaine, hein, rien d'autre, est justifié, puisque le christianisme devrait évidemment faire partie de ce top 10 des grandes ensembles idéologiques de l'humanité. Mais si on voit très loin, supposons dans l'Inde, vous allez trouver les Upanishads et l'hindouisme et le fond, le Veda, dans lesquels l'histoire humaine est aussi comprise sur le fond des grandes guerres, des grands drames, des grandes familles divines, les divinités qui se font la guerre et puis les hommes qui subissent, qui font ce qu'ils peuvent, et qui parfois sont inspirés par des grands guides, comme Krishna, par exemple, dans les Upanishads, etc. Vous allez trouver la même chose un peu partout. Même au Mexique, vous allez trouver des mythes, comme celle de Quetzalcoatl, qui est un serpent à plumes, qui est une divinité, la divinité donneuse de la langue, de la culture, de l'intelligence, qui est partie à l'exil. On va savoir pourquoi, mais ça coïncide à peu près avec l'arrivée des Espagnols, et qui devrait revenir. Donc, c'est ce qu'on appelle la gigantomachie ou l'histoire, la grande histoire, la très très grande, la macro histoire de l'homme, comprise comme quelque chose que les musiciens connaissent très bien, c'est-à-dire on est dans la tonique, on est dans une tonalité, on l'abandonne pour aller à la dominante et on doit la retrouver à la fin. Cette histoire ternaire, cette structure ternaire de la musique tonale, de toute la musique tonale, reproduit d'une certaine façon les grandes étapes de l'histoire comprise de cette façon-là par les grandes religions, et dans le christianisme, c'est totalement flagrant. Même que Hegel avait fait de cela sa propre cuisine, en parlant de thèse, antithèse, synthèse, en parlant de l'esprit qui s'aliène dans le monde et qui revient à lui par l'intelligence, par l'œuvre de l'intelligence humaine, et puis son incarnation qui est l'état parfait, bon, tout ceci. Cuisine de Hegel est très vite indigeste, mais c'est une version de la même chose. Et on va trouver ça un peu partout. Marx, c'est la même chose. Hein. La bourgeoisie, le prolétariat, puis le communisme. Cette structure ternaire qui est mythique, en fait, qui est mythique de l'histoire humaine. Comme si on devrait la comprendre comme ça. Et nous avons des vies, nous passons notre enfance, jeunesse, puis une vie adulte, et puis finalement une vieillesse, qui se structure en arc comme ça, d'une façon qui est d'une certaine façon analogue. Sauf que nous pensons notre vie comme ça, hein, naissance, jeunesse, vie adulte, puis vieillesse, mort. Mais nos ancêtres, et quand je dis nos ancêtres, il suffit de reculer d'un siècle pour le retrouver. Ne voyez pas les choses comme ça. Ou dans un siècle et 20 et plus de 20, vers la fin du 19e, si on veut être plus œcuménique. Je veux dire, un monde dans lequel on ne comprend pas la vie humaine comme ça, c'est-à-dire on comprend la vie humaine comme provenant du Créateur et allant vers le Créateur. Et on comprend la vie humaine comme la venue d'une âme spirituelle. D'ailleurs, le mot âme et esprit veulent dire à peu près la même chose. Anima vient du latin, Spri vient du grec, puisque c'est la traduction spiritus, c'est la traduction de pneuma, c'est-à-dire une espèce de vapeur ou d'air, quelque chose de très éthéré en tout cas, et qui vient dans la matière et qui a vocation de revenir dans le monde spirituel, dans le monde divin. C'est une structure ternaire aussi, un arc renversé. On vient du ciel, on va au ciel. On vient du monde des esprits, on va au monde des esprits. D'ailleurs, Platon le concevait de la même façon, sauf que pour lui, c'était un enchaînement infini de naissances et de renaissances, des morts et des renaissances, à peu près comme le comprennent les bouddhistes, même si la doctrine de la réincarnation n'est pas du tout la même. Mais il y a la transmigration des âmes. Donc, il faut déjà se mettre dans ce contexte. Pour ça, il ne faut pas trop réguler. Mais je vous disais, si on recule 3 siècles, on se retrouve dans un monde où rien, mais rien n'est compris en dehors de cette dualité monde divin, monde humain. Et rien de l'humain n'est compris en dehors de cette situation dans laquelle on peut être sauvé ou on peut être condamné. On peut accéder à la vie éternelle ou être plongé dans la mort, dans l'abîme. Cette grande dualité qu'on va trouver dans les très grandes œuvres, dans la Divine Comédie, dans les très grandes œuvres de la peinture aussi. On sait à l'enterrement du comte Orgaz, par exemple, du Greco. C'est à Tolède, hein, pour ceux qui aiment voyager, il ne faut pas rater ça. S'il y a 3 œuvres les plus grandes de l'histoire de la peinture, c'est là que vous allez en faire partie. Bon. On voit le monde divin et le monde humain qui est un monde politique plein de nobles et on voit toute l'hypocrisie et puis un monde souterrain cette structure ternaire est totalement flagrante, même si l'œuvre anecdotiquement c'était pour l'enterrement d'un comte qui avait commandé ce tableau. Donc voyez-vous, quand je vous disais, on recule déjà dans un siècle et demi, on trouve ça, tout le monde à peu près est croyant, sauf certains savants d'ailleurs, c'est normal, certains scientifiques, et puis une certaine orientation des sciences humaines, comme celle d'Auguste Comte, mais en réalité, qui d'ailleurs pensait qu'il fallait recréer une religion civique, une religion positive, qu'il le disait. Et si on recule donc déjà 3 siècles, on retrouve un monde, donc je me répète, où rien de l'humain ne peut être compris qu'en rapport avec Dieu, et ce rapport est soit clair, soit compréhensible à la raison. C'est l'héritage de Thomas d'Aquin, c'est l'héritage, même pour Descartes. Hein. Descartes pensait prouver l'existence de Dieu par un raisonnement. Donc tout est harmonie, finalement, tout est compréhensible, et la science, d'ailleurs, se doit d'être cohérente avec ce savoir divin, théologique. Soit ce rapport à Dieu est dramatique. Il est vécu dans la déchirure, dans un conflit de sentiments, dans un conflit intérieur. Et ça, c'est la tradition agustinienne. Bon, vous avez compris, le luthéranisme est un agustinisme exacerbé, et dans lequel il ne nous reste qu'à espérer d'être sauvés. Nous ne pouvons même pas savoir si nous sommes sauvés. Tout dépend de la grâce divine qui, elle, est infinie, donnée sans aucune contrepartie. Et d'ailleurs, on sait très bien que ceux qui vont... On sait, enfin, nous ne le savons pas, mais il est écrit quelque part, ceux qui seront sauvés, ceux qui seront plongés. Alors évidemment, ça paraît étrange de penser le monde comme ça. Et pourquoi penser le monde comme ça? Ça, c'est aussi un mystère de l'histoire des idées. Luther était un homme torturé lui-même. Il y a une très grande autobiographie de Luther qui a marqué d'ailleurs les sciences humaines d'une façon qui est insoupçonnée. C'est fait par Erikson, le psychanalyste, au milieu des années 50-60. Erik Erikson, grand psychanalyste, qui a fait une biographie psychologique de Luther. Alors, évidemment, comme tous les psychanalystes, il va interpréter tout comme une histoire de névrose, mais Freud n'a pas fait autre chose non plus avec Léonard de Vinci, avec l'histoire de Moïse, etc. Mais c'est intéressant, juste pour savoir que Luther était un homme torturé, qui se débattait dans un drame intérieur extrêmement puissant, qui était celui du salut. Et il savait que s'il faisait cette schisme, cette séparation avec l'Église de Rome, il serait excommunié. Alors il se joue pour lui quelque chose d'extrêmement dramatique. Il faut faire ou pas faire ces gestes. Il faut traverser ou pas le Rubicon. Vous connaissez la formule de César. Hein. Si on le traverse, après, il n'y a pas de retour en arrière. Hein. On sera jugé et puis tout sera joué. Hein. Le sort sera joué. Et donc, finalement, au bout de beaucoup d'années, il se décide à faire ce pas, ce qui lui mène à une certaine radicalité de la pensée. C'est-à-dire, si Dieu est un créateur infini, et s'il y a tout prévu depuis le début, depuis le commencement des temps jusqu'à la fin, il est totalement ridicule d'acheter son salut avec des indulgences, de se racheter en faisant de bonnes œuvres, en léguant une petite fortune à la paroisse ou en faisant construire une petite église, même une cathédrale. En réalité, c'est un blasphème de penser comme ça. Donc, cette infinitude de Dieu qui est radicalement éloignée de la finitude humaine, qui est d'ailleurs, c'est dans le texte d'Augustin, hein, c'est la grande dualité d'Augustin, qui vous retrouvez les mêmes langages chez Pascal. Hein, cet infini, cette immensité et cette petitesse que je suis, cette immensité qui m'effraie, hein, la subjectivité humaine face à l'infini de la création et des dieux est effrayante. Et en même temps stimulante. Bon, voilà comme quoi le luthéranisme est une sorte de hypertrophie, d'exagération de quelque chose qui est de l'essence du christianisme, c'est-à-dire cette dualité radicale entre l'homme et Dieu. Mais à différence d'autres religions, le christianisme a une exclusivité, pour ainsi dire, son apport, c'est la fameuse incarnation, l'histoire de l'incarnation. Si bien ces deux mondes sont radicalement séparés par quelque chose qui s'est passé, par un événement qui est l'événement de la chute du péché, eh bien, il y a l'incarnation. Dieu s'est fait chair, mais en réalité, si on est très précis dans le texte, ce qui est dit, et notamment dans l'évangile de Jean, c'est que le verbe de Dieu se fait chair. C'est pas la même chose que de dire Dieu s'est incarné, ou alors Dieu a envoyé son fils. En réalité, cette histoire de Dieu, père, fils, mère, etc., la mère des lieux, tout ceci, ce sont des métaphores, et Luther le comprenait très bien. Et dans l'évangile des Jean, il est dit, d'ailleurs, deux mots sur l'évangile des Jean. Dans les évangiles, il y en a quatre maintenus par l'orthodoxie de l'Église, parce que il y a trois ou quatre autres qui sont connus, fragmentaires, quelques-uns sont plus, ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, mais pour ce qui est des quatre qui sont acceptés, qui sont dans la Bible, et il y a trois qu'on appelle les évangiles synoptiques, ce sont celles de Marc, Luc et Matthieu, dans l'ordre plus ou moins chronologique qu'on connaît, hein, sur toutes ces histoires-là, on la connaît assez bien. Contrairement à ceux qui disent, oh, ben oui, Jésus peut-être n'a même pas existé, si on sait très bien qu'il a existé. Il y a une historiographie actuelle qui est très très précise, on peut chercher ça. Alors évidemment, on ne sait pas s'il était le Fils de Dieu, et on ne sait même pas si Dieu existe, mais ça c'est une autre histoire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a ces trois évangiles synoptiques. Pourquoi on les appelle synoptiques? C'est parce qu'ils sont coïncidents. Ils sont coïncidents dans le récit qu'ils présentent de la vie et de la mort de Jésus. La structure même des épisodes, c'est la même. Il y a des détails, des langages dans les uns et dans les autres. Celui de Luc, je crois que c'est le plus ancien. Et celui de Matthieu, le plus complexe. C'est pourquoi aussi la Passion, selon saint Matthieu de Pâques, est la plus complexe, la plus aboutie, selon certains. Mais je vais vous commenter ça tout à l'heure. Donc je reviens à l'évangile des Jean qui a une spécificité qui n'est pas synoptique, c'est-à-dire qui raconte l'histoire pas dans le même ordre. Il y a des détails qui ne coïncident pas et il y a des choses qui n'y sont pas, qui n'y figurent pas. Beaucoup de miracles n'y figurent pas. Il y a dans les autres évangiles des longs passages où il a guéri un aveugle. Il y a très peu, il y en a que 8, je crois, dans l'évangile des Jean. La résurrection de Lazare est une qui est très importante, ce qui est la chose essentielle, c'est de vaincre la mort, et l'histoire n'est pas racontée de la même façon. Bon, vous savez, les évangiles sont écrits en grec, non pas en araméen, ce qui exclut dès le départ le fait que Dieu était écrit par des disciples de Jésus, c'est-à-dire Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu, n'est pas le Matthieu qui est un disciple, etc. Et surtout, Jean, le Jean qui a écrit l'évangile de Jean, n'est pas du tout le Jean qui figure dans l'évangile de Jean comme les disciples préférés ou bien-aimés de Jésus. C'est très intéressant de le savoir. Alors pourquoi on l'a attribué à Jean? Et en fait, c'est une habitude très ancienne qui était même d'usage à l'époque de Platon. Il y a des faux dialogues de Platon qui étaient écrits par des disciples, mais en réalité, si on éditait un truc comme ça et on les signait de son nom, personne ne les lirait. Donc, on attribuait à Platon ou on attribuait à Aristote des tas de trucs juste pour que, si on était ce qu'on appelle aujourd'hui un intellectuel, pour que ce soit lu par quelqu'un, parce qu'il fallait se mettre sous l'autorité de quelqu'un. C'est pour ça qu'on a fait cette attribution qui est totalement abusive d'un point de vue historique, de dire que c'était le disciple Jean qui a écrit cela. Évidemment, ça n'a rien à voir. Son langage, le grec de l'évangile de Jean n'est même pas le même des évangiles de Matthieu, de Luc et de Marc. Et c'est pour ça que dans l'historiographie actuelle, dans la philologie actuelle, on sait que c'est au moins un siècle après. Ça a été écrit entre les années 95 et l'année 110. Comment on peut savoir ça? Alors là, on peut le savoir, figurez-vous, parce qu'on connaît les manuscrits, on connaît les usages linguistiques. Les philologues peuvent déterminer à peu près à quelle époque et dans quel endroit a été fait, à cause justement des spécificités du grec. Si aujourd'hui quelqu'un dit... dans l'année 71, il s'est passé quelque chose. Vous savez que ce n'est pas un français, ce soit un belge, ce soit un suisse. Et après, s'il dit en 95, voilà, vous allez savoir que de quel canton même. Et voilà, mais on fait la même chose pour le grec, et puis on sait quand est-ce que ça a été écrit, où est-ce que ça a été écrit. On sait que ça a été écrit dans la partie orientale de la Grèce, c'est à Éphèse, dans la terre d'Héraclite d'Éphèse, donc. Aujourd'hui, la Turquie, figurez-vous. Voilà, c'est vaste tout ça. Et qui commence par cette très étrange phrase, en tesarché logos estin. En tesarché logos estin. Arché, c'est le principe. Arché, d'où le mot archéologie, par exemple. C'est la chose traduite comme au commencement, ou dans les commencements, ou dans les débuts, ou. Dans le principe, le logos était, littéralement. On dit au commencement était le verbe, et le verbe était un Dieu, et le verbe était tourné vers Dieu. Ça, c'est une traduction assez bonne, parce qu'il y a l'accusatif dans le grec, c'est une langue à déclinaison, comme l'allemand. C'est pour ça que la traduction de Luther à l'allemand est assez précise, elle était très exacte, beaucoup plus facile à faire d'une certaine façon que de traduire ça en français. Et voilà, donc, je ferme une parenthèse, l'homme, vous allez voir que je ferme mes parenthèses, comme Bach qui ouvre des trucs et qui les retrouve 40 minutes après. On va voir ça dans la structure de la passion, c'est assez incroyable. Et je venais de dire donc que ce n'est pas la même chose de dire que Dieu s'est incarné que de dire que c'est le verbe de Dieu s'est incarné. Alors pourquoi le verbe? C'est quoi le verbe d'ailleurs? Logos. Le logos, c'est plus que le verbe en grec. C'est aussi l'intelligence, c'est aussi la pensée, mais c'est les gain et le verbe parler en réalité. Donc c'est le parler, ou ce qui a été parlé, ce qui a été dit, le dit. C'est quelque chose d'important parce que dans le catholique, qui est très important dans le protestantisme, je vais voir pourquoi, c'est très important pour Luther et très important pour Bach. Le catholicisme, tout le monde qui aime l'art connaît le foisonnement incroyable des œuvres picturales. Et les grandes cathédrales, la construction, l'architecture et surtout la peinture, l'imagerie, qui est très discrète dans les mondes orthodoxes, il n'y en reste que les icônes qui sont extrêmement codées, parce que c'est pensé comme une œuvre strictement sacrée, mais l'imagerie catholique est extrêmement foisonnante, donc c'est pour ainsi dire un univers de la vue. On donne à voir Dieu, celui qui l'a fait de la, avec le plus grand culot, c'est Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Tout le monde connaît, c'est quand même assez incroyable. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que oh, ben, je ne crois pas en un dieu à barbe, mais en réalité personne n'a jamais cru. Mais les catholiques s'autorisaient le fait de le représenter. Chose qui est invraisemblable pour les juifs, hein, vous savez, et puis la grande polémique des iconoclastes, hein, celui qui n'acceptait pas les images, qui donne le premier schisme, les orthodoxes catholiques. Et par la suite, la répudiation qu'a fait Luther de cette fantasmagorie dans laquelle la Vierge Marie, par exemple, c'est presque un deuxième Dieu, et tout ceci qui est très très mal vu en réalité par les protestants. Donc, tout ceci pour vous dire que cette question du verbe incarné n'est pas banale. Le verbe, c'est la parole, et la parole, vous êtes choriste, la parole, c'est la voix. Donc il y a une mise au centre de la vocalité dans le luthéranisme que Bach va comprendre à merveille. Et pour lui, Bach était un grand, très grand compositeur instrumental. Tous les musiciens sont fascinés par les préludes pour orgue, par les œuvres instrumentales, le suite pour violoncelle. Donc rien à dire là-dessus, mais quand il travaillait la voix humaine, il y avait quelque chose de différent. Et soit parce qu'il l'entourait, vous avez bien sûr beaucoup travaillé l'ouverture de Herr, unser Herr, je m'excuse pour mon allemand est très mauvais, mais entouré d'un tissu orchestral extrêmement dense et hyper expressif. Mais c'est la voix humaine qui doit amener la parole. Et la parole, c'est le verbe. On n'est pas loin. La parole, c'est le Christ, en réalité, puisque c'est le verbe qui s'est fait chair. Donc, en réalité, le fait de prononcer ces paroles, alors en allemand, en latin, en grec, ce n'est pas important. C'est pour ça que Luther l'a traduit en allemand. Très important pour lui que les fidèles qui étaient dans l'église comprennent ce qu'ils chantent. D'ailleurs, vous savez très bien, sans doute, que tout le monde chantait les chorales. Ceux que vous avez chantés, que vous allez chanter, tout le monde les chantait, et les chorales ne sont pas composées par Bach, enfin, les mélodies ne sont pas composées par Bach, les chorales étaient une tradition luthérienne. Luther lui-même, il a composé 25, ou alors 18, enfin, il y a là, les exégètes sont en discussion, mais il y a un corpus luthérien qui sont ces chorales. Les poèmes sont soit de lui, soit d'autres, de Müller, il y en a d'autres auteurs très importants de l'époque, de tout ce qu'on a appelé l'orthodoxie luthérienne. C'est quand même deux siècles de travail. Il n'y a pas que l'évangile, il y a toute cette construction qui est autour. Mais sachez que la voix humaine, c'est rien de moins que l'incarnation. C'est que par l'incarnation que la voix peut se faire présente, et jamais par le pictural. C'est pourquoi dans le protestantisme, il y a une reprise de l'iconoclastie, c'est-à-dire du rejet des images, du rejet du folklore, la Vierge, tout ceci, on laisse de côté. Même qu'il y a quelque chose qu'aussi bien Luther que Bach ont mis en valeur, c'est le moment où je suis dans la croix, juste avant de mourir, dit à sa mère, voici ton fils, et dit à Jean, le disciple aimé, voici ta mère. Il y avait déjà d'autres épisodes dans l'évangile où Jésus rejette sa mère. Il dit femme, c'est quand même extrêmement violent, traiter sa mère de femme, laisse-moi accomplir mon œuvre, quelque chose qui est très extrêmement puissant. Donc, et bien sûr, Luther n'allait pas rater ça. Et il y a pour rejeter tous les cultes mariales qui est une chose assez obsédante chez le catholicisme. Donc voilà, et l'évangile de Jean est, pour ainsi dire, un concentré de cette dualité divine-humain, Dieu-homme, mais Dieu, s'il s'incarne, c'est le verbe de Dieu, c'est la parole de Dieu. On peut dire, mais Dieu, c'est un être spirituel, c'est la seule chose qu'on peut s'incarner, mais en réalité, on n'en sait rien du tout. Les grands philosophes qui ont fait de la théologie, comme Spinoza par exemple, beaucoup disent que Spinoza était athée, d'ailleurs ce qui se soutient parfaitement, disaient que Dieu est un infini, mais ce n'est pas un infini comme nous on conçoit l'infini qui est spatial, c'est-à-dire l'univers qui est infini par exemple, ou les temps qui seraient éternels. C'est parce que ce sont des modes dont nous comprenons les choses spatiales. nous comprenons une temporalité linéaire, mais ce sont deux modes, ça. Et nous comprenons la pensée aussi, peut-être. Donc, on peut concevoir une intelligence infinie. Mais ce sont ces deux modes-là, l'espace et la pensée, qui d'ailleurs sont très importants chez Descartes, hein, la res cogitans, la chose pensante, et la res extensa, c'est-à-dire le monde matériel, nous dirions comme ça aujourd'hui. Et bien, pour Spinoza, si on conçoit un Dieu infini, il faut concevoir non pas deux modes seulement, la pensée et la matière, ou l'étendue, ou l'espace, mais d'infinis modes. C'est-à-dire que Dieu existerait d'une infinité des modes que nous sommes à tout jamais voilés. Donc, quand dans la Bible on dit, et dans les évangiles on dit, et tu seras devant la gloire du Dieu l'Éternel, ça veut dire que cette infinité des modes seront accessibles. C'est-à-dire que nous n'avons qu'une très très lointaine, un très lointain soupçon de ce que ça peut être la divinité. C'est pourquoi toute tentative de l'appréhender, par exemple de le représenter ou de le définir, chose qui était typique de la théologie thomiste, par exemple, Thomas d'Aquin ou les jésuites, définir Dieu, ce n'est que des balivernes, aurait dit Luther, c'est absurde. Donc, c'est grand infini, cet écart, ce gouffre, ce précipice, nous baladons toujours au bord de ce précipice. Eh bien, dans la Passion selon saint Jean, c'est beaucoup plus flagrant. Et dans l'Évangile des gens et dans la Passion de Bach, est beaucoup plus flagrant. C'est-à-dire qu'il va souligner tout ce qui est la divinité du Christ, de Jésus, et la divinité et la royauté. Là, on peut entrer dans certains commentaires de l'œuvre elle-même. La royauté, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans la Passion selon saint Matthieu, qui est un récit beaucoup plus serré. Des drames humains qui se jouent. On ne peut pas dire non plus que ce soit extérieur à la Passion selon saint Jean, c'est un drame humain. Et quand on dit drame, ce n'est pas banal. Drame, c'est drama, et drama, c'est l'histoire. Hein, la dramaturgie, c'est l'argument. Hein. Le drama, c'est l'argument dans la théorie d'Aristote, dans la théorie de la tragédie d'Aristote. Drama, c'est l'argument, c'est les histoires, ce qui se passe. C'est donc, dans la Passion, le rôle de l'évangéliste de raconter ce qui se passe. L'évangéliste est un conteur. Il vous raconte ce qui se passe, mais c'est le texte lui-même. Donc il y a cette chose fascinante. Vous savez que le théâtre est exclu de la liturgie protestante. Et les théâtres, enfin, quand on dit le théâtre, c'est l'opéra. L'opéra était une chose très italienne, donc, qui vient du sud, des Italies catholiques, où se passe plein de choses. Hein, c'est la Castafiore, pour ainsi dire. Donc, ceci est totalement extérieur à la sensibilité luthérienne. Et Bach, quand il a composé ses passions, héritait de toute une tradition des passions. Le fait de dire la passion était une tradition dans les églises luthériennes. Et évidemment, à Leipzig, là où il est arrivé pour faire ce travail, ses passions étaient depuis le Moyen Âge. Donc, ce n'est pas une tradition proprement protestante depuis le Moyen Âge. Il y avait des passions monodiques qui étaient dites. On lisait tout simplement le texte. Après, à la Renaissance, puis vous connaissez un peu l'histoire de la polyphonie. Hein, l'invention de la polyphonie a été aussi un grand éblouissement. Hein, et les grandes œuvres, par exemple l'école de Notre-Dame, qui est d'ailleurs très très. On peut s'inspirer de la construction de la cathédrale de Notre-Dame pour voir que cette polyphonie, plus on agrandissait la nef de la cathédrale, et ça c'est à Chartres, c'est la même chose, plus ces polyphonies s'enrichissaient, on faisait des canons à 13 voix, à 24 voix, ça existe, Perrotin par exemple, ou Josquin de Près, toute cette école de Notre-Dame, toute cette école française, avait englouti les textes, d'ailleurs tout ceci était fait avec des textes des évangiles, mais il avait englouti dans une architecture qui le rendait totalement incompréhensible. La naissance du baroque est toute une autre révolution esthétique qui commence donc à la Renaissance italienne, hein, c'est la Camerata di Bardi, où on commence à mettre du théâtre en musique. Ce théâtre était des drames mythologiques grecs, des histoires, des nymphes, des dieux. Et on a fait tout le contraire. On a fait un accompagnement extrêmement discret pour que le texte soit audible et on puisse suivre ce drame. C'est la naissance de l'opéra. Donc, dans cette dualité-là, l'opéra qui naît dans ce milieu catholique italien et le luthéranisme qui exclut cela, donc exclut le théâtre. Mais on s'est retrouvé dans une tradition de passion qui était finalement assez froide. Non, c'est ce qu'on appelle la passion oratoire, la passion oratorio. Et cette tradition a été contrée par une deuxième tradition qu'on appelait l'oratorio passion. L'inversion n'était pas banale. Ou alors l'oratorio de la passion, qui était des versions beaucoup plus littéraires. Et cette version littéraire faisait appel aux grands poètes de l'orthodoxie luthérienne et mettait en musique et en parole quelque chose de plus imagé. Et le Bach, quand il a pris son travail de cantor de Leipzig, les années d'avant, il y avait un type qui s'appelait Hummel, je crois, et un autre, Brocker, qui était le plus important auteur de passion, qui est une passion littéraire, c'est-à-dire un oratorio de la passion. Donc les deux traditions existaient. À la fin, selon évidemment la sensibilité des autorités religieuses qui étaient très très proches des autorités politiques dans ces villes et s'imposaient un style ou l'autre, et notamment à Leipzig s'imposait un style très hiératique, c'est-à-dire la passion oratorio qui prend que le texte évangélique et non pas les poèmes où c'est plus psychologique, beaucoup plus psychologisant. Alors, Bach va faire de cela une originalité, et il va s'inscrire dans la tradition de la passion oratorio, c'est-à-dire la forme la plus discrète, qui est ailleurs appelée, dans la rhétorique théologique, est appelée le stylus humilis, c'est-à-dire le style humble, le style de l'humilité. Il ne faut pas faire de grandes choses, de grandes histoires, ni pas dramatiser. C'est très étonnant, parce que ça vient directement de Luther, qui disait qu'il ne faut pas émotionnaliser, mais ce n'est pas évidemment le mot qu'il employait, aujourd'hui on dirait ça, il ne faut pas remplir d'émotions. C'est très étrange quand on pense que la passion est remplie d'une émotion extrêmement puissante. Il ne faut pas émotionnaliser l'histoire de la passion, parce que les gens vont avoir compassion de Jésus et tout ceci, mais c'est curieux, pourquoi faudrait-il pas avoir compassion? On pourrait les traduire plus littéralement aujourd'hui, on dirait, il ne faut pas être dans l'empathie. Ah, le pauvre Jésus, il souffre, alors moi je souffre, on est triste. Parce que ça va nous éloigner, d'après Luther, du fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est que c'est nous les coupables de ces grands malheurs. C'est-à-dire, il ne faut pas se dédouaner dans l'émotionnel. Aujourd'hui, on dirait, il ne suffit pas d'aller pleurnicher dans une comédie romantique pour que nous ayons notre vie résolue. La version actuelle de ce paradoxe. Donc, halte là aux grandes effusions émotionnelles. Ce qui a valu d'ailleurs à Bach, par la passion selon saint Jean, certains reproches. Parce que, voyez-vous, comment elle commence extrêmement fort, avec donc cette introduction, et puis cette invocation, Herr, unser Herr, qui est préludé par un murmure dans les cordes, hein, qui représente ou nous met dans l'angoisse. Quelque chose va arriver là, quelque chose de terrible va arriver, et puis superposé à cela, il y a ce chant des hautbois et des flûtes qui est d'une très grande nostalgie. Les notes longues, prolongées, avec des intervalles descendantes qui à chaque fois se superposent et qui sont dans des dissonances très longues à résoudre. Vous allez peut-être un jour faire l'analyse musicale de certains passages, et c'est extrêmement riche, jusqu'à ce que cette invocation, c'est une véritable invocation, Seigneur, Seigneur, et alors qu'est-ce qu'il dit? C'est ça qui est fascinant. Seigneur, Seigneur, toi qui es dans la gloire éternelle, dans tous les temps, Dis-nous comment toi qui as été abaissé, qui a été rabaissé, humilié, est toujours dans la gloire et est toujours triomphant, et toujours dans la majesté et dans l'éternité. On peut trouver les textes exacts. C'est assez fascinant parce qu'on demande, c'est très très bizarre, on demande à Dieu lui-même de dire, voilà, Herr, unser Herrscher dessen Ruhm, Seigneur des gloires, notre glorieux souverain, dont la renommée de tout pays est glorifiée. Ça, c'est une allusion en psaume, hein, le Dieu qui règne sur toutes les nations, même si c'est le Dieu de la nation élue, pour les cas de psaume juif. Montre-nous par ta passion, zeig uns durch deine Passion, que toi, le vrai Fils de Dieu, wahre Gottes Sohn, pour l'éternité des temps, zu aller Zeit, pour tous les temps, même abaissé dans la plus grande humiliation, tu as été glorifié. Donc, c'est une invocation parce qu'on appelle, on fait appel au Verbe de Dieu pour qu'il soit ici présent. Et là, on voit très bien qu'il s'agit d'une liturgie. Une liturgie, c'est une messe en réalité. Mais ce n'est pas n'importe quelle messe, c'est celle qui va être dite le vendredi saint, le jour de la mort, le jour où on célèbre la mort de Jésus. Et on va donc par cette invocation commencer tout de suite le récit évangélique. Et le récit va se structurer dans certains épisodes qui sont très sélectionnés. Bach n'a pas fait, ce n'est pas l'évangile de Saint Jean, c'est juste le récit de la Passion. Donc, ça commence par le moment où on va chercher Jésus dans un jardin, ce qui est dit. Et il était avec ses disciples, et puis arrivent deux soldats romains, des autorités religieuses, ecclésiastiques, enfin de prêtres, du temple de Jérusalem, et puis tout ce monde-là cherche. Et c'est Jésus qui les interpelle, il dit qui cherchez-vous? Qu'est-ce que vous cherchez? Et puis ils lui disent on cherche Jésus de Nazareth, Jésus les Nazoréens. Et lui, il dit, c'est moi, ich bin. Et dans le ich bin, qui est dit dans un intervalle des cartes ascendantes, et c'est juste ces mots-là qui sont dits par Jésus. Et on va faire un parallèle, parce que les mêmes intervalles, la même stylistique, on va la trouver dans la parole de Pierre. Quand on lui demande, on lui dit, et toi, tu étais un de ses disciples, tu étais là avec eux, avec lui, il dit, non, je n'étais pas du tout. Et il dit donc trois fois, accomplissant la prédiction de Jésus qui avait dit, avant que les coqs ne chantent, tu me régneras trois fois. Et la même phrase, donc, ich bin nicht, est dite dans les mêmes intervalles, sans qu'ils sont un peu déguisés et un peu ornés par la structure, l'écriture musicale. Et là, on va retrouver cette dualité qui se met au centre du drame de la Passion. C'est le fait que Jésus, c'est le Verbe, le Verbe, c'est la parole vraie, c'est Dieu lui-même, et qui dit que je suis là. C'est moi qui vous cherchez, c'est moi qui vous ai bien. Jésus, il y a le côté anecdotique, il dit, mais laissez partir ces hommes, c'est-à-dire ne vous en prenez pas à mes disciples, c'est les bons bergers qui prennent garde de son troupeau. Mais ça, c'est le côté anecdotique, l'essence, c'est dans ce « je suis », c'est moi que vous cherchez. Et quand il dit cela, « ich bin », eh bien, le soldat tombe à terre, ce qui est dans le récit des gens, ce n'est pas dans les autres récits. Et à ce moment-là, Pierre sort une épée et donne un coup d'épée. Et là, Jésus lui dit « remets l'épée dans ton fourreau, pourquoi je ne boirai pas le calice que mon père m'étend ?» ou la coupe que mon père me tend. C'est une façon de parler, c'est-à-dire ce que mon père me propose, pourquoi je ne boirai pas. Dans les autres évangiles, il y a le mot qui est très connu, garde ton épée, celui qui tue par le fer mourra par le fer. Vous voyez, c'est pour ça que c'est pas la même histoire. Là, on est tout de suite face au dessein de Dieu, à la divinité de Jésus, et c'est pourquoi les soldats tombent à terre devant cette phrase « ich bin ». Et qui est finalement, je suis celui que je suis. C'est la phrase donc de l'Ancien Testament qui est celle qui est dite à Moïse quand tu lui demandes, mais qui es-tu? Je vais revenir chez mon peuple, ils vont me demander, tu étais où, tu faisais quoi dans le monde? Comment veux-tu qu'on te croie? Tu disparais dans la montagne. Et alors, qu'est-ce que je vais leur dire? Alors, Dieu lui répond, dis-lui que je suis celui que je suis, ou celui que je serai. Ça dans l'hébreu, il y a une ambiguïté entre l'affirmation présente et le futur. En tout cas, dire « je suis », c'est « je serai » aussi, parce que c'est l'attestation, c'est l'affirmation. Je suis là. La même qui manquait à Caïn lorsque Dieu lui dit « le son de ton frère crie du fond de la terre, où es-tu ? » Non, mais j'ai pas vu, j'ai pas ni vu ni connu, j'ai pas en charge de mon frère. C'est celui qui dit. La même qui a manqué à Adam quand Dieu lui demande qu'as-tu fait? Mais moi j'ai rien fait, c'était la femme. Et puis la femme elle dit bah non, c'est le serpent. C'est-à-dire la non-attestation, le fait qu'on ne dise pas c'est moi, je suis là devant vous. Voilà. Eh bien, ça il y a. Cette parole qui est très puissante, qui fait contrepoint permanent, en théologie on appelle ça le chiasme. Le chiasme c'est une figure rhétorique en réalité qui met des choses contradictoires ensemble, ou alors d'une chose qui peut être renversée. Par exemple, bonnet blanc, blanc bonnet, c'est un chiasme. Mais l'usage du chiasme dans les évangiles est un... Vous connaissez les sermons de la montagne, les derniers seront les premiers, etc. Tout ce paradoxe, tout ce goût du paradoxe qui est omniprésent, qui n'est pas dans l'évangile des gens, ce sont dans les autres. Donc ce chiasme-là, c'est la parole mise en rapport avec la parole qui assume, avec la parole qui n'assume pas. Et là, je reviens à l'introduction, je vais m'arrêter bientôt d'ailleurs, là où je disais, mais comment peut-on présenter une œuvre sacrée qui est dans un contexte totalement croyant, aujourd'hui dans un monde sécularisé, dans un monde incroyant d'ailleurs majoritairement, eh bien, je pense que cette dualité-là, qui est au centre de la passion, et il y en a d'autres, il y a une autre très puissante que je vais commenter avec le choral qui est central, il y a une chorale qui est centrale dans la passion, et ces dualités-là font que, en réalité, tout le monde peut comprendre la vie, la propre vie comme ça. En réalité, la vie nous présente toujours des occasions où on cherche quelque chose et on peut dire « c'est moi ». C'est moi qui va répondre. Ça s'appelle la responsabilité. L'essence de... le complément, pour ainsi dire, de la liberté. On veut bien être libre, mais il faut répondre de notre liberté. Il faut répondre de ce que nous sommes. Enfin, nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes quand même un être humain, et il faut pouvoir dire « ich bin ». Sinon, non, c'est pas moi, je suis pas du tout, j'étais pas là. Pierre, tu étais avec... j'étais venu dans les jardins. Non, c'était pas moi. De quoi tu parles? Pas du tout. Donc, voilà, assumer ou ne pas assumer ce que l'on est. Et donc, cet abîme s'ouvre comme ça, et il y a un moment où... effectivement, après que le coq chante, Pierre se rend compte que Jésus lui avait dit ça, et il tombe dans la détresse la plus totale et dans la tristesse absolue. Il y a ces moments-là qui sont racontés par l'évangéliste. Il y a une aria aussi qui reprend cela. Les arias, ce sont des commentaires subjectifs, ce sont qui ne se voulaient pas émotionnels. Alors ça, c'est la grande dualité, la grande ambiguïté des Bacs. Mais en réalité, il nous fait plonger dans la tristesse infinie de ne pas être seulement pécheur, mais d'avoir renié son maître et d'avoir méconnu ou renié le chemin qui a été montré. Voilà comme quoi on peut, tout en étant parfaitement athée, dire eh bien, ce message en réalité s'adresse à chacun de nous. S'adresse à chacun de nous, et de cette façon-là, avec cet abîme de détresse qu'on peut entendre dans cet aria. Et qu'on va ressentir, c'est Pierre. Pierre, c'est nous, en réalité. Et là, il y a un écho aussi. Au moment de la mort du Christ, il est dit que la tonnerre ou la terre a tremblé, et puis les pierres se brisèrent, et les tombeaux s'ouvrirent. Et les pierres qui se brisent dans ce moment, qui est en réalité quelque chose qui est là pour donner une dimension cosmique à la mort du Christ. Ces pierres qui s'est prises, c'est les cœurs de Pierre, vous connaissez les jeux de mots, hein. C'est le cœur froid de Pierre, de Simon-Pierre, qui s'est brise devant l'immensité de sa faute, devant l'immensité de sa lâcheté, devant le reniement de son maître, qui est le reniement de soi-même. Chaque fois que nous nous renions nous-mêmes, nous sommes Pierre dans cet épisode-là de la Passion. C'est pourquoi, quand vous allez chanter, quand vous allez l'entendre, sachez plonger au fond de vous-même, parce que c'est en réalité cela qui fait de cette œuvre une des plus grandes œuvres de l'histoire de la culture humaine. L'autre chiasme, deux mots en plus avant, parce que c'est deux mots des théologiens, l'autre chiasme est très important, est donné par le fameux choral 22. Le choral 22 est au centre de ce qu'on appelle le troisième épisode, qui commence avec... Alors c'est un peu compliqué, alors il faudrait faire un tableau. Et il commence avec l'épisode du jugement devant Pilate. Il y a deux scènes d'interrogatoire, pour ainsi dire. Là, il y a la Gestapo qui était déjà un peu à l'œuvre. Ben, on demande, c'est quoi les rois juifs, ou c'est quoi cette histoire dans les évangiles synoptiques, Jésus répond, c'est toi qui l'as dit. Donc il y a un jeu ironique, d'ailleurs c'est assez incroyable. Donc les gens sont fâchés, on le tape dessus. Ici Jésus répond, mais pourquoi me tapes-tu? Si j'ai mal parlé, montre-moi en quoi j'ai mal parlé, et si j'ai bien parlé, pourquoi tu me frappes? Voilà. Donc c'est toujours mettre l'interlocuteur devant ses responsabilités. Et c'est toujours la même chose, les mêmes gestes. Et Bach a situé ses chorales en plein milieu de... Alors quand je dis en plein milieu, il faut comprendre, mais ça serait très difficile sans un tableau qui nous prendrait toute une autre conférence de faire ça. Il y a des très grands savants qui l'ont fait. C'est une structure en arc. Et vous savez que la Passion selon saint Jean a été critiquée parce qu'il y a de la répétition des chorales. Et vous entendez les mêmes mélodies. Alors bien sûr, ils sont harmonisés différemment, et d'ailleurs il y a des paroles différentes, enfin, c'est assez complexe, mais il y a ces répétitions. Par exemple, Albert Schweitzer, qui est un des plus très grands musicologues, vous savez, Schweitzer était plus que ça, mais il était organiste et il était un véritable savant en musique. Schweitzer, il sait qu'il n'aimait pas du tout la Passion selon saint Jean, parce qu'il se répète, c'est ennuyeux, c'est tristouné, c'est déprimant, c'est incroyable. Schweitzer était un brave type ailleurs, mais il n'avait pas compris. Ces répétitions sont totalement voulues pourquoi? D'une part, parce que Bach, il n'était quand même pas très naïf, il savait très bien que sa musique était très très nouvelle pour les gens. C'était quand même très inouï, ce chœur d'entrée, et les interventions de la foule, la tourbe. La foule qui crie, qui crucifie-le, nous ne voulons pas lui, nous voulons Barabbas. C'est quand même extraordinaire et c'est des véritables cris. Chaque fois, c'est une irruption, le tourbaï. Le tourbaï, on pourrait dire, c'est la plèbe, c'est la pagaille, c'est la racaille qui s'exprime. Et c'est toujours vengeresse, une racaille, enfin une foule. Une foule, c'est toujours vengeresse. Une foule réclame toujours des boucs émissaires. Ça, c'est une constante. Donc, même Jean, l'évangéliste, l'avait très bien aperçu. Donc, Bach savait que cette œuvre serait très surprenante pour les gens. Donc, il a équilibré et apaisé et rasséréné l'ensemble avec cette répétition de mélodies chorales où les gens se retrouvaient. Et évidemment, pourquoi se retrouvaient? Parce qu'ils les chantaient. Donc là, on est dans le connu, et ce sont les poèmes qui sont connus, parce qu'ils sont de la tradition luthérienne, etc. Mais les poèmes, enfin les chorales, où il y a des reprises de mélodies, ils vont, ici, ça dépend de l'énumération, malheureusement, en plus, les numérations ne sont pas les mêmes, mais disons qu'ils vont depuis le 14, Petrus der Nichtdank jusqu'au 27 ou 28, 28 Nachmen Hals, et sont chacun, pour ainsi dire, si on met un milieu qui serait les 22, qui est les chorales Durch dein Gefängnis Gottes Horn, par ta captivité au Fils des dieux. Mon allemand est très mauvais, mais vous connaissez le texte, vous le dites en allemand. Donc, et c'est celui qui va être au centre. Donc, celui qui les précède va être en rapport avec celui qui les succède. Et celui qui les précède par deux fois va être en rapport avec celui qui les succède deux fois. Celui qui est trois fois devant va être en rapport avec celui qui est trois fois après. Et ainsi de suite, par cinq ou sept niveaux. Donc, ce choral est au centre d'une structure en arc, qui est d'ailleurs elle-même au centre d'une structure en arc tonale, qui est de l'ensemble de la passion. Donc là, on dit, disons, cette histoire-là, elle est bien réfléchie, encore que ce soit imperceptible pour l'auditeur. Donc, c'est un des plus grands mystères. Pourquoi ça? Et c'est là où on voit très bien que la pensée philosophique et théologique de Bach, elle n'était pas du tout naïve. C'est quelqu'un qui faisait une œuvre aussi de pensée. Il donnait à comprendre, va savoir par qui, mais d'une certaine façon, cela passe dans la structure harmonieuse de l'ensemble, un message, qui est ce message-là dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire ce chiasme, cette contradiction, cette contraposition. Alors, comment elle est dite dans ce choral? Vous connaissez le choral puisque vous le chantez. Donc, je ne veux pas vous faire encore souffrir vos oreilles en le disant en allemand, mais je lis la traduction. Donc, par ta captivité, là, le Gefängnis, fils des dieux, la liberté nous est venue. Par la captivité, par l'emprisonnement, la liberté nous vient. C'est une contradiction monumentale. Ton cachot est le trône de grâce. Au fond d'une prison, tu trônes en majesté sur le monde. L'asile de tous les croyants. Car si tu n'acquiesçais pas à ta servitude, à la servitude, Knechtschaft, la qualité des serfs, car si tu n'acquiesçais pas à ta servitude éternelle, serait notre servitude à nous. Si tu n'acceptais pas d'être asservi, dans ce sens de la servitude, d'être asservi, donc réduit et emprisonné, notre servitude à nous serait éternelle. Knechtschaft ewig sein. Ça serait l'éternité qui serait la servitude. Et c'est extraordinaire que par cette structure qui est cachée, qui est ésotérique, enfin, on ne peut pas entendre ça quand on assiste à une présentation, eh bien, Bach nous dit, ça c'est le centre de l'affaire. C'est là où tout se joue. Vous êtes en rapport avec une question de liberté et d'emprisonnement. Vous êtes soit emprisonné, soit libre. Mais comment être libre? Si nous sommes éloignés de la source de liberté qui est le Créateur. Eh bien, il faut que le Créateur soit, ou son Verbe incarné, soit au fond dans ce cachot obscur pour que nous soyons libres dans la pleine lumière. Et c'est là la dimension cosmique, ou eschatologique, on dit eschatologique, c'est-à-dire qui a à voir avec la mort, avec la rédemption. On dit sotériologique, enfin, toute cette terminologie des théologiens, hein, sotériologique, ça veut dire qui a à voir avec le salut. C'est cette dramaturgie qui se joue. Et puis ça se termine par la mort, évidemment. La passion elle-même, c'est-à-dire la mise à mort, qui est décrite avec un dramatisme croissant par l'évangéliste. On trouve donc des arias extrêmement importantes, comme celle où il est dit Es ist vollbracht, vollbracht, c'est-à-dire tout est accompli. Le tout est accompli, qui est une phrase biblique qu'on trouve dans les autres évangiles, c'est l'accomplissement de quoi? C'est l'accomplissement des prophéties, bien sûr. Ça, c'est dans le judaïsme. Le judaïsme fonctionne autour des prophètes. Le prophète a dit ça, et puis finalement, ça s'accomplit. Donc, on attend l'avenir du deuxième prophète. Enfin, c'est toute une dramaturgie qui a à voir avec la prophétie. Les temps prophétiques, ce sont des paroles qui sont dites dans un temps sacré, Vous connaissez peut-être, quelques-uns de vous, qui sont un peu anthropologues, un peu sur les goûts de ça. C'est dans un livre très important de Mircea Eliade, qui s'appelle Le mythe de l'éternel retour, ou alors Le sacré et les profanes, qui est une version un peu plus facile encore à lire, où il établit qu'il y a deux temporalités et deux spatialités, en réalité. Le temps sacré et le temps profane. Le temps sacré, c'est un temps qui est hors du temps. Ou alors, c'est quand on dit « dans ce temps lointain »« in illotem » pourrait dire Mircea Eliade. Dans ce temps-là, voilà. Ou alors des choses cachées depuis le commencement de tout. C'est un titre d'une œuvre de René Girard. Eh bien, ce temps sacré, qui est en dehors du temps, il est en temps que nous ne vivons pas. Nous vivons dans le temps profane. Le temps profane est un temps linéaire. Les choses se succèdent, elles passent. Elles sont dans le futur, elles sont vécues, elles sont dans le passé. Eh bien, le temps sacré est un temps éternel. Il n'y a pas cette succession. Mais dans notre temps, qui est profane, donc on est dans la... Profane, ça veut dire littéralement profanum, c'est-à-dire devant, pro, devant, fanum, le temple. Devant le temple. Ce qui est devant est en réalité dehors. Vous connaissez, par exemple, si vous êtes devant une cathédrale, la cathédrale des Chartres, vous êtes devant le temple, profanum. Mais si vous y entrez, dans le message ésotérique qu'il y a dans la cathédrale des Chartres, si vous y entrez, ce n'est pas parce que vous êtes entré dans le portail que vous êtes dans l'espace sacré. Et il y a le labyrinthe, qui est à mi-chemin entre l'entrée et le centre de la nef. C'est-à-dire qu'il faut faire ce chemin initiatique pour être vraiment dans l'espace sacré. Donc, bien naïf serait celui qui pense que parce qu'il a franchi les seuils de la cathédrale, il se trouve dans le temps sacré. Eh bien, Bach fait la même chose un tout petit peu. Il nous met un labyrinthe ici et qui donne une autre portée à cette œuvre qui est donc initiatique. Qu'est-ce que ça veut dire initiatique? Pour les anthropologues, initiatique, c'est bien sûr un enseignement, mais qui est un enseignement qui est censé transformer la personne. La personne devient un initié. Et le chrétien qui doit vivre la passion, la chanter, la vivre, l'entendre, parce que les gens ne chantaient pas tout, évidemment, vous savez, les chœurs sont quand même compliqués, sont difficiles, et ils chantaient les chorales, et c'était une expérience initiatique. D'autres l'ont comparé avec la théorie traditionnelle d'Aristote sur la tragédie, hein, qui disait que la tragédie où on assiste à la mort et aux faits horribles, aux faits qui produisent l'horreur et la crainte, mais finalement ça donnait le fait que en vivant ces émotions, les gens s'étaient libérés de ça, et ce qu'on appelle la catharsis. Catharsis, c'est littéralement une purgation, hein, c'est quelque chose d'assez biologique, si vous voulez. Donc finalement, c'est une théorie de la catharsis. La catharsis était l'explication selon laquelle effectivement la tragédie grecque était initiatique dans ce sens, ou alors plutôt libératrice. On dirait c'est peut-être moins, il y a moins de prétention, mais c'était libératrice. Et là, il y a cet aspect initiatique chez Bach. Cette œuvre-là n'est pas un concert comme les autres. On assiste, on la fait, on la donne ou on va l'entendre pour être transformé, pour sortir transformé. Alors, le tout est accompli. C'est ce qui est accompli qui va unifier l'espace sacré, les temps sacrés, avec l'espace et les temps profanes, celui où notre vie se transcourt. Notre vie se déroule dans ce temps profane et dans l'espace profane. Eh bien, l'accomplissement, c'est la jonction de cet espace, de cet abîme infini entre la divinité et l'humain. C'est pourquoi c'est pas banal d'assister à cette œuvre-là. Là, on est bien sûr dans un univers de terminologie, de langage, de symboles et de concepts chrétiens, encore plus précisément luthériens. Mais si on l'extrait, bon, je reviens à ce que je disais au début, si on l'extrait, si on les donne dans un milieu parfaitement laïque et parfaitement athée même, eh bien, que peut-on en tirer? Où est l'initiation? Quel est l'accomplissement? Eh bien, si on entend ce choral central, hein, sur la captivité qui donne la liberté, eh bien on va trouver effectivement, il y a quelque chose de captif chez nous, il y a quelque chose d'emprisonné chez l'humain, il y a quelque chose de non libre dans les sociétés humaines. dans les structures de nos sociétés, dans le monde, il y a quelque chose qui nous emprisonne, même dans notre vie corporelle. Nous sommes d'une certaine façon prisonniers de nos maladies, de nos goûts, de nos désirs. Alors, bien sûr, dans le christianisme, c'est les désirs charnels, c'est le péché, tout ceci. On peut laisser ce langage un peu entre parenthèses et dire en réalité, nous sommes quand même emprisonnés par notre compréhension qui est parfois un peu médiocre de ce que nous sommes nous-mêmes. Est-ce que nous sommes nous-mêmes à chaque fois et à tout moment de notre vie capables de dire « Ich bin » de cette façon-là? Vous me cherchez, c'est moi, je suis là. Et voilà, nous sommes dans une sorte de prison qui est une vie faussée dans le sens de ce qui n'est pas dans la vérité. Vous avez cette moment incroyable où Pilate, qui d'ailleurs essaye de se déjouer de l'histoire, c'est beaucoup plus flagrant dans les évangiles synoptiques, et dit ah ben moi je me lave les mains, enfin il va et se lave les mains. Ce lavage des mains n'est pas dans l'évangile des Jean. Mais il y a la triple tentative de Pilate pour dire ben, je veux pas condamner cet homme, je ne trouve aucune faute, je ne trouve aucun chef d'accusation. Et puis les gens pensent, ben non, mais il s'est pris pour le Fils de Dieu, il s'est pris pour le roi. Ben, c'est votre roi, il dit Pilate. Ben non, nous n'avons qu'un roi, c'est César. Et ça, ces paroles-là, elle est terrible en même temps, parce que c'est les Juifs qui disent ça, et après ça va être repris par l'antisémitisme catholique, vous savez, au centre de l'Église catholique, ça a fait fleurir, parce que c'est les Juifs qui n'ont pas reconnu le Christ, etc. Donc, il faut quand même savoir que ça commence là. Mais en même temps, si on est suffisamment mûr pour laisser de côté cet aspect-là, on peut penser qu'il y a cette question du vrai et du faux qui est au centre de toute vie humaine. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus ne se contente pas dans l'évangile des gens de dire c'est toi qui l'as dit, c'est toi le roi des Juifs, et dans les autres évangiles, il dit c'est toi qui l'as dit. Ici, c'est beaucoup plus précis, il dit oui, toi tu dis ça, mais tu dis ça parce que c'est toi qui l'as dit ou parce qu'on te l'a dit à toi. C'est quand même fascinant, c'est la rumeur. Enfin, c'est le on dit. Hein. Ben, on dit, qui a dit? C'est qui l'a dit? Et alors, Pilate, qui n'est quand même pas très content de cet échange qui est un peu cavalier, quand même, de la part de Jésus, il dit, mais tu l'es ou tu l'es pas? Dis-moi la vérité. Et Jésus répond, je sais moi la vérité, je suis la vérité. Je n'ai pas besoin de dire la vérité. Parce que, justement, c'est le verbe incarné, je reviens à cette idée. Le verbe est incarné, donc il ne peut être que vrai. Et ceux qui sont dans le chemin de vérité savent, ils me reconnaissent. Et alors Pilate a cette réponse incroyable, il dit, mais c'est quoi la vérité? Qui est en réalité une critique voilée de l'évangéliste Jean, Ioannès, qui était un grec, qui connaissait très bien la philosophie grecque, qui connaissait le scepticisme. Le scepticisme, c'est une des branches, pour ainsi dire, du néo-aristotélisme, qui vient d'ailleurs de Socrate lui-même. Socrate lui-même a eu plusieurs écoles. Une de ces écoles, les mégariques, qui disaient qu'il n'y a pas de vérité, et ensuite les sceptiques. Et on peut tout dire, il n'y a pas le vrai et le faux, tout est une question de point de vue, et les sophistes qui enseignaient ça dans l'agora, contre lesquels Socrate se battait d'ailleurs. Donc en fait, l'évangéliste, là on prouve très bien que ce n'est pas un disciple juif parlant araméen qui a écrit ça, c'est un grec qui connaissait très bien la culture grecque, tout comme saint Paul d'ailleurs, qui était un grec de citoyenneté romaine et de culture juive. Qui connaissait très bien les sceptiques, et il met cette parole sceptique dans la bouche de Pilate. Au lieu de se laver les mains, il relativise, il dit, ben, il n'y a pas de vérité, c'est quoi la vérité? Bon, donc, maintenant, donc, il assume, et il accepte qu'il va devoir condamner Jésus. Donc il dit aux gens, ben, allez, amenez-les, jugez-les, ou tuez-les vous-même. Et le peuple dit, ah ben non, ben, nos lois nous interdisent de tuer. Tu ne tueras point, et encore moins à la Pâque, parce que cette histoire-là est censée se passer dans la Pâque. Vous savez, la célébration de la Pâque, la Pessah, c'est-à-dire on fête la sortie d'Égypte et on se purifie. D'ailleurs, il est dit, dit clairement par l'évangéliste que les peuples, la tourbaine, ne rentrent pas dans le prétorium, c'est-à-dire l'endroit où était Pilate, c'est-à-dire la mairie, pour ainsi dire, si on garde les bourgmestres. Hein. Enfin, c'est le lieu du pouvoir politique. Hein. Le pouvoir de Pilate, c'est l'envoyé de César, donc c'est le lieu du pouvoir. Et donc les juifs ne rentrent pas là pour ne pas se souiller, parce que sinon ils ne peuvent pas aller participer au dîner pascal. Donc c'est un peu complexe, mais c'est dit en toute lettre par l'évangéliste, c'est clairement raconté. Donc là, il y a Pilate qui relativise, et il n'y a pas de vérité. Donc vous voyez bien, votre peuple a sa vérité. Et finalement, il s'est résout à donner et à condamner Jésus quand on lui dit qu'il s'est pris pour le roi, der König. Et nous n'avons qu'un roi, c'est César. Donc, je vous disais que ça, c'était malheureusement la source aussi de beaucoup d'antisémitisme, parce que c'est méconnaître quelque chose qui est essentiel au peuple juif, c'est que le roi, c'est Dieu. En réalité, les gens qui disent ça se renient eux-mêmes en tant que juifs. Et l'accomplissement de la prophétie, et du prophétisme et du messianisme juif, et en réalité, pour Luther, c'est le christianisme luthérien protestant. Et Bach l'avait très bien assumé. C'est là où tous les gens se sont réunis. Celui qui s'est réuni de la pire façon, c'est Pierre. C'est lui, il est bien placé pour connaître le vrai. Mais on ne peut pas connaître le vrai quand on est dans la crainte. Quand on est, mais qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas être en prison, je ne vais pas avoir de problème avec les autorités, donc je ne pense pas, ce n'était pas moi. Il n'était pas capable de dire, je suis, c'est moi. Et donc, et là, on va voir donc, cette aria magnifique, absolument sublime, donc tout est accompli, l'aria 30, hein, pour la voix de Dalto, je crois, donc la voix de Dalto, qui représente dans la symbolique de Bach et du luthéranisme, cette voix d'Alto représente la fille d'Israël. C'est assez étonnant, cette expression. Ou la fille des Sion, se dit parfois. C'est quoi, cette fille? En réalité, c'est le peuple spiritualisé. C'est celle qui est croyante, celle qui accède à la vérité, celle qui est capable de reconnaître. Et c'est une femme, forcément, tout lecteur des évangiles, le catholique de base, il n'assume pas ça, mais tout lecteur attentif des évangiles peut se rendre compte que les évangiles, c'est l'histoire d'un type qui adorait les femmes. Jésus est toujours entouré des femmes. Et ce sont les femmes qui les reconnaissent une fois qu'il est ressuscité, mais ce sont elles qui l'accueillent aussi, et il passe son temps dans la maison des femmes. Beaucoup de ces femmes s'appellent Marie, et il n'y a pas que sa mère, il n'y a pas que Marie de Magdala, qui est peut-être sa maîtresse, enfin, dans cette certaine version, c'est l'histoire de Nikos Kazantzis, la dernière tentation du Christ, bon, c'est un roman, on n'en sait rien, mais... En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il était entouré de ces femmes-là, qui sont celles qui ont la sensibilité pour l'accueillir. Il y a une histoire aussi qui est racontée, c'est l'histoire du parfum extrêmement cher que Marie de Magdale verse sur Jésus, elle verse sur ses cheveux à elle, et avec ses cheveux, fait un massage. Vous imaginez la sensualité de la scène. Les bons dieuxeries du service, les nouilles de bénitier, ils ne racontent pas cette scène-là, parce que c'est un érotisme absolument incandescent. Donc, c'est cette femme qui était la seule à véritablement comprendre le Christ, même s'il ne faisait pas partie des 12 apôtres, parce que les femmes, à l'époque, n'étaient pas accueillies. Donc, c'est aussi un féminisme avant la lettre qui est extrêmement clair quand on le lit. Vous pouvez voir cette... tableau absolument sublime de Léonard de Vinci au Louvre, qui est Santa Anne, la mère et l'enfant. C'est une trinité, une trilogie, une trinité, mais en réalité, il y a un animal dans les bras, qui est l'agneau, qui est dans les bras de l'enfant. Donc, en réalité, il y a une quaternité. Et c'est un sommet de féminité, de douceur et de tendresse. Donc là, on a ça. Et en réalité, l'aria ist voll. Vollbracht est une aria extrêmement triste et extrêmement de très grand amertume, parce que c'est accompli dans la mort. Mais il y a la fin qui est le dernier choral, d'ailleurs, qui clôt la passion, mais surtout le dernier chœur, qui est cette magnifique demande de repos. Hein, c'est la, quand on dit repose, ici repose, reposez un peu, repose un peu au saint ossement, vous, que j'arrête désormais de pleurer. On arrête les pleurs, on arrête les lamentations avec cet air extraordinaire qui est au même temps, pour ainsi dire, un air de résignation, d'acceptation et de sérénité. On va conclure par la sérénité, repose un peu, et à moi aussi apporter le repos. Donc on demande aussi avoir du repos pour soi. Et le tombeau qui vous est destiné et qui désormais ne renferme plus aucune détresse. Vous connaissez l'histoire du tombeau vide. En réalité, on n'a pas trouvé le corps de Jésus. C'est un tombeau vide qui est ouvert. Il dit, ce tombeau qui désormais ne renferme aucune détresse, m'ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Et se referme et referme l'enfer devant moi. Donc, c'est ce que j'appelle le chiasme, c'est-à-dire cette paradoxe où va finalement atteindre la sérénité parce que cette histoire nous ouvre le ciel et renferme l'enfer. Mais l'enfer est synonyme d'enfermement. Donc, c'est là où le paradoxe atteint son maximum, puisque c'est par ce tombeau, qui est aussi le cachot avant l'emprisonnement, la liaison, le fait d'être, on a lié Jésus, on l'a ligoté, et c'est le fait qu'on l'ait ligoté nous a libérés. Il y a plusieurs fois où ces paroles sont dites. Et à la fin, les paroles du choral final, qui est dans un ton musical totalement différent. Alors, il faut dire aussi, mais là, cette question de l'analyse musicale, que l'ouverture, le choral Herr, dont je vous ai parlé, est un sol mineur, et la tonalité des sols, il va avoir beaucoup d'évolution. Toute la première partie va dans un cercle ascendant des quintes, hein, et ensuite c'est tout en ré, et quelques épisodes après, on se trouve en la, donc ça monte dans le cercle des quintes, des quintes, ça s'appelle anabasis. En grec, c'est-à-dire cette montée, et il y a par la suite une descente, ça s'appelle katabasis. Anabasis, katabasis. Vous voyez ce mot, ça se trouve dans l'anabolisme, c'est ce qu'on intègre, c'est ce qu'on assimile, et katabolisme, c'est ce qu'on élimine. Bon. Donc anabasis, katabasis, et on peut dire que cette ouverture est un sol, et le cœur de Rousse. Vol, c'est-à-dire repose en paix, est un do mineur, et c'est un sol do, hein, c'est la cadence parfaite. Mais ce n'est pas la fin, il y a ces chorales, parce qu'il faut que ça se termine par le chant des douces, par le chant des fidèles, par le chant des fidèles dans l'église, et ces chorales, c'est un mode majeur, c'est une sorte de mode assez éclatant, et ça va se voir de mi bémol à sol, et ce qui est dit est dans un tout autre ton. Ah Seigneur, que ton cher petit ange, lorsque ce sera la toute fin, porte mon âme dans les seins d'Abraham. Et là, c'est la boucle bouclée, c'est-à-dire le cycle abrahamique, le cycle du monothéisme. Qu'il laisse mon corps reposer dans sa petite chambre. Et le ton est totalement changé, tout doucement. Loin de toute douleur et de toute peine, jusqu'au jugement dernier, éveille-moi alors de la mort, afin que mes yeux te voient. Emplis de joie, ô Fils de Dieu, toi mon salut, toi le trône de grâce, ça c'est même la parole initiale, hein, quand on dit Seigneur, Seigneur de grâce, Seigneur que tu es dans le trône de grâce, Seigneur Jésus-Christ, exauce-moi, je vais te louer éternellement. C'est-à-dire, je me mets placé dans le temps sacré, celui qui n'est pas le temps de nos vies qui se découle, mais qui a acquis la liberté par le temps sacré. Voilà, maintenant, je vous remercie de votre attention. Je compte sur vous pour un échange. Maintenant, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, des idées, des contradictions, des réfutations, des compléments à tout ce que j'ai raconté. Donc, j'espère qu'on va avoir un petit moment d'échange. Oui, allez-y.
Vous avez fait référence à deux moments importants qui sont les larmes de Saint-Pierre et le moment où le tremblement de terre fait briser la pierre. Et ces deux moments ne sont pas de l'évangile de Saint-Jean.
Ah oui, vous avez tout à fait raison, ça vient de Matthieu. Ce qui montre aussi la liberté que Marc prenait avec le texte. Et ça lui semblait très important pour introduire l'histoire de Pierre, qui lui semblait être à même de produire l'identification psychologique des fidèles sur cette question-là. C'est nous qui sommes dans l'affaire. C'est pas une histoire qui s'est passée en Palestine, ça fait très longtemps. C'est nous ici et maintenant qui sommes confrontés. Est-ce que nous sommes capables de ne pas régner trois fois si nous sommes persécutés, si nous sommes dans la détresse, si nous sommes menacés par... Voilà, ce sont des intrants de l'évangile de Matthieu, bien sûr, tout à fait.
N'y a-t-il pas aussi des textes qui ne sont ni dans l'évangile de Matthieu, ni dans celui de Saint Jean?
Oui. Oui, ce sont les textes des arias et des interventions de la... des arioses. Ce sont des arias, mais moins complexes musicalement. Hein, c'est quelque chose qui est intermédiaire un tout petit peu entre les chorales et les arias. Et qui viennent de cette tradition que j'appelais l'orthodoxie luthérienne. Donc il y avait des auteurs acceptés, on peut dire, dont ce fameux Müller ou Brocker, qui avait fait une passion déjà, mais qui n'était pas tout à fait accepté parce que c'était ce qu'on appelle un oratorio de la passion, c'est-à-dire une théâtralité très importante. Donc ces textes-là sont inclus, des textes poétiques qui font pas partie de l'évangile. C'est assez étonnant parce que. On peut penser que dans le luthérianisme, c'est que la parole biblique seule, hein, sur la fides, la seule foi, et texto solo, ça, que le texte qui est... Mais en réalité, c'est pas vrai. Il y a tout un univers d'écriture qui était accepté. Et c'est évidemment aussi signe que Bach se donnait quand même pas mal de liberté. Il incluissait ou il incluissait pas des textes qui faisaient partie des autres passions, dont celle de Brocker que je mentionnais. Il faut dire quand même que ce n'est pas dit par les mêmes personnes. L'évangéliste, c'est un seul. C'est le ténor et celui qui a le texte évangélique. Et donc c'est assez différencié. Il est vrai que les tourbaëls, la foule en délire, ce sont aussi des paroles bibliques, ce sont dans les textes. Mais pas les arias qui sont, non pas des commentaires, mais ce sont des intériorisations, ce sont des moments d'intériorisation. C'est là où on réfléchit à la portée sentimentale aussi. Ne cache pas le fait que la musique est extrêmement élaborée. Et il est à son sommet en réalité, certaines arias mentionnées par exemple cette incroyable aria d'alto de l'Assomption Saint Matthieu avec le solo de violon, un des moments les plus bouleversants de toute l'histoire de la musique. Mais ici il y a aussi cette aria Tout est accompli et une autre aussi qui est très très longue après, hein. On s'immerge dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre du récit. Le récit est linéaire, c'est le drama, c'est ce qui se passe. Et ensuite, on s'immerge dans des moments de méditation, dans des moments de réflexion.
Il y a un langage quand même chanté par le ténor, je vais parler de l'évangéliste, qui dit, d'ailleurs, vraiment, qui m'étonne beaucoup, c'est imaginez le sang de Christ répandu, c'est Hervé.
Oui, c'est. Ça comment? C'est quel numéro? L'évangéliste, oui, alors, ça ne doit pas être le même ténor possible. Évidemment, si on a le budget. Voilà. C'est pas l'évangéliste. Hein. Il n'y a pas derrière l'évangéliste, c'est le texte pur qui est assez nu, donc avec une basse continue qui est toujours très discrète.
Dans
bien sûr, cette aria est très très importante.
Moi, je me demande si on a... c'est peut-être dommage, on va avoir l'alto qui est un monsieur qui va chanter le rôle d'alto, d'après ce, après ce que, tout ce que vous nous avez dit sur la c'est féminité.
C'est un alto, oui, en contre-ténor.
Oui.
Oui, mais ça, c'est dans les usages.
Et voilà. C'est...
Bien sûr, c'est dans les usages.
Moi, je ne suis pas d'accord.
Les femmes, ouais, ils ont pris longtemps.
Et voilà.
Malgré comme je venais de dire, que dans les évangiles, ils ont une place totalement centrale.
Du temps de Bach, c'était un enfant.
Sinon les altos c'était des hommes sans doute. Il n'y avait pas des castrati en Allemagne, hein, c'est une histoire italienne. Mais c'est des gens qui avaient cette technique. Mais alors, quand est-ce que ça a commencé à être chanté par des femmes? Je suis incapable de vous répondre. Sans doute vous trouvez un livre d'histoire de la musique où c'est dit.
Je ne sais pas non plus, non.
Peut-être que vous savez.
Non, je ne sais pas.
C'est compliqué à savoir, ouais, parce qu'au même temps, il y avait des femmes. C'était, le protestantisme est un peu plus ouvert sur ce point. Mais Luther avait aussi... Vous savez, les pasteurs s'est mariés. Enfin, il y a un début d'ouverture.
Il y a aussi la question de la tessiture. Donc, quand on voit comment Bach écrit pour la voix d'alto, c'est souvent très, très bas.
Oui.
Et pour que ça sonne... c'est difficile pour une femme d'avoir une voix qui porte à cette tessiture-là. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, souvent, même dans les chœurs, on fait un mélange, ouais, pour que ça sonne quand même. Donc il y a une indication aussi par là que c'était probablement plutôt un homme qui chantait qu'une femme.
Ouais. Comme quoi, l'homme et la femme ne sont pas égaux en tout.
Pardon ?
Oh là là !
Franchement, charrier là.
En même temps, il faut dire que si on prend la portée mystique, bon, j'ai pensé quand même une bonne partie de l'exposé, essayer de vous sensibiliser à ça. La voix, c'est la voix du verbe. En réalité, il n'y a pas de sexe. Hein. C'est quelque chose qui doit être au-delà des spécificités humaines. Donc, c'est pas très important que ce soit chanté par des chœurs d'enfants ou des femmes aujourd'hui, ou c'est ça une contralto ou un ténor ou un contre-ténor. C'est pas très essentiel, hein, pour le contenu de la chose. De la même façon, je dirais que dans la musique des Bach, dans la musique instrumentale des Bach, c'est pas très important l'instrument choisi. Par exemple, les concertos qui sont inscrits, par lui-même, il les inscrivait. Parfois, c'était pour clavecin et d'autres, c'était pour violon. Alors, c'est quand même bizarre. Hein. Un instrument polyphonique, l'autre... Mais ça, il ne se gênait pas du tout. Il y a une sorte d'idée d'immatérialité de la source sonore, ce qui arrive à son apogée, évidemment, avec l'art de la fugue, où Bach n'a pas indiqué d'instrument. Et en fait, il n'a pas indiqué d'instrument, pas pour qu'on choisisse l'instrument, je pense que simplement, il ne pensait pas que c'était une œuvre qui devrait être jouée. C'est ça qui est fantastique. Elle devait être lue. Et bien sûr, pour des gens qui lit une partition, il y a une écoute intérieure, donc on se termine de quoi. C'est vrai qu'il est arrivé à un degré de spiritualisation, de dématérialisation, on dirait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand on dit dématérialisation, ça veut dire que les troupes se trouvent dans les nets. Alors, c'est dématérialisé. Enfin, la carte de crédit va être dématérialisée, ou bon, vous voyez, le ticket de métro est dématérialisé. Donc, mais dématérialisé, pour lui, ça voulait dire. Délié de la matière sonore, donc l'instrument, et évidemment même la voix humaine à un moment donné. C'est peut-être qu'il pourrait être le plus près de son esprit à lui si on représentait, quand on donne l'art de la fugue, ça devrait être chanté par des voix humaines, mais c'est très difficile parce qu'il y a évidemment la basse. Qu'est-ce qu'elle a dit?
Voilà un beau programme, oui.
Voilà, donc on est dans une œuvre qui oscille entre l'esprit et la matière, qui oscille entre la chair et l'esprit, entre l'idée et le corps. Pas d'autres idées?
Il y a ces deux versions, en fait.
Pardon?
Pourquoi il y a ces deux versions de la passion?
Il n'y a pas deux versions, il y a quatre. Donc c'est quand même très compliqué. Alors c'est... Je pense que c'est dû à la petite histoire, et non pas à la grande. Et en fait, en réalité, Bach, il y a eu des problèmes avec cette passion. Et ça lui a été reproché, notamment le cœur d'entrée. Enfin, sans doute, ça a frappé beaucoup de gens. Il y a une anecdote qui, on ne sait pas pourquoi on l'a gardée, mais il y a une dame importante, sans doute, une noble, qui sortait de l'église en disant « Oh Seigneur, délivre-nous de cette scandaleuse production théâtrale. » Donc, il y a eu des plaintes. Et ça a mal commencé, pour ainsi dire. Ça a mal commencé avec un malentendu. C'est totalement absurde, mais Bach, peut-être il était un peu dur de tête, et, pas dans, un peu têtu en fait. Et il se trouve qu'il y avait deux églises à Leipzig, l'église de Saint Thomas, qui est la plus connue parce qu'elle était là où il était nommé cantor, mais l'église de Saint Nicolas aussi. Et il se trouve que l'église de Saint Nicolas était beaucoup plus petite, et notamment le pour ainsi dire, l'abside, enfin non, l'autel, c'était beaucoup plus petit et il n'y avait pas la place pour mettre les chœurs et tout ce qu'il voulait, et les instruments. Et donc, il a fait une astuce, mais alors, je vois comme ça. Et la tradition faisait que la passion était donnée, quel qu'elle soit les compositeurs, parce qu'il y en avait plusieurs qui l'ont précédé, était donnée alternativement à l'église Saint-Thomas et à l'église Saint-Nicolas. Une année dans l'une, l'année suivante à l'autre. Et cette année-là, la passion devait être donnée à l'église Saint-Nicolas. Ce qui a déplu à Bach parce que c'était beaucoup plus petit. Alors, il a monté tout, il a commencé tout, il a fait imprimer le programme en annonçant que la passion serait donnée à l'église Saint-Thomas. Le directeur, parce que ça s'appelait comme ça, le directeur de l'église Saint-Thomas, ou le président, enfin, il y avait des noms, hein, et il était indigné, évidemment. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est à nous, c'est notre année. Celui de l'église Saint-Nicolas.
Oui.
L'année dernière, c'était chez Saint-Thomas, alors maintenant, c'est à nous. Et il est allé se plaindre aux autorités civiques, c'est-à-dire au bourgmestre. Et les gens et tout le monde étaient très confondus. Et ils ont envoyé une délégation chez le maître Bach, pour qu'il s'explique qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et Bach, ça paraît incroyable, il a dit ça doit être une erreur. C'est quand même fascinant. Alors les gens, ils ont tout et tout décontenancé et ils ont déterminé que non, il faut faire comme c'est prévu, il faut que ce soit chez Saint-Nicolas. Donc Bach, évidemment, il s'est plié. Il a envoyé une note en disant « Puisque les traditions sont comme ça et qu'il y a eu un malentendu, c'est très sage, votre très sage comité, le conseil municipal, on dirait aujourd'hui ici, a décidé ceci. Et donc je vous remercie pour l'impression des programmes qui devront être refaits. » Alors ça avait un coût. Donc, et puis la mairie, pour ainsi dire, a accepté de financer le coût de la réimpression de l'ordre. Vous voyez, c'est une histoire très bête, mais ça a mal commencé. Donc, il y avait déjà une animosité. Et ce qui fait qu'il y a eu plein de plaintes par la suite. Et quand ça devait être redonné en 29, ça a été créé donc en 24, 1724. Et quand il fallait la refaire en 29, il a changé plein de choses. Il a changé le chœur d'introduction pour un autre qu'on connaît, mais qui est beaucoup plus discret. Et il a changé plusieurs passages. Après, il a remonté en 34, le patron fait très longtemps après, et il a remis les choses dans l'ordre. Il a remis le chœur Herr, ce qui était très important. Et il a remis en place des choses qu'il avait ôtées et il a même corrigé des passages, et corrigé musicalement, hein, des choses qui étaient peut-être mal copiées ou mal faites. Et il y a eu une quatrième version qu'on connaît moins, et qu'on ne comprend pas pourquoi elle l'a fait, et qui n'est pas terminée. Donc on connaît, là il s'est arrêté. Peut-être découragé par toutes les polémiques. C'est-à-dire qu'il était vieux et puis à un moment donné, on arrête les frais, on ne la monte plus. C'est quand même incroyable. Dans l'intervalle, il avait la passion de Mont-Saint-Mathieu, qui est au pour dire, d'être un spécialiste la plus aboutie, la plus complexe, et qu'il n'y a aucun défaut. C'est, si tant est que cette répétition des chorales que déplaisait à Schweitzer soit un défaut, c'est absurde. Même Pirot, le très grand musicologue, avait dit que c'était voulu, que c'était un travail sur le langage, sur l'harmonie qui a fait Bach en réalité. Moi, j'ai étudié la composition avec un disciple des Messiens, ce qui était une chance. Il nous apprenait l'harmonie, il nous faisait jouer le choral de Bach au piano. C'est celui qui sait faire ça et qui s'habitue à le faire, qui fait habituellement ça, il apprend l'harmonie. Il n'y a rien à faire d'autre. Bien sûr, il faut les analyser, il faut connaître les cadences, les modulations, parce qu'il y a toute l'harmonie tonale est expliquée d'une certaine façon. Tous les chorales que vous allez chanter sont des traités d'harmonie et où il y a un concentré de l'harmonie tonale. L'harmonie tonale la plus parfaite. Et qui d'ailleurs est très simple à observer, puisque ce sont des phrases qui doivent pouvoir être dites en respirant normalement par des fidèles d'une église. Donc c'est pour ça que ça s'arrête, il y a le point d'orgue, ça reprend, et puis ils sont extrêmement simples. Mais à l'intérieur, ça bouillonne de contrepoints. C'est le contrepoint le plus inventif du monde. Parce que il ne voulait pas faire la même chose que Josquin des Prés ou que Perrotin, c'est-à-dire ne pas noyer la parole. Donc, il fallait se débrouiller pour que tout en étant contrapuntique à quatre voix, ce soit tout compréhensible. Et c'est là le bras de, pour ainsi dire, le tour de force. C'est ça que Pirot avait analysé, et puis dans la tradition musicologique sous Bach, est analysé. C'est là, en réalité, c'est un exploit. C'est pour ça que le système tonal, après Bach, est, pour ainsi dire, la messe est dite. Il n'y a plus rien à rajouter. Bien sûr, il y aura Mozart, Beethoven, Wagner et tout ceci, mais il n'y a rien de nouveau en réalité. Tout est là-dedans, y compris les chromatismes, qui est quelque chose que Bach utilise plein de fois. Dans la Passion, vous allez trouver les chromatismes chaque fois qu'il y a quelque chose d'ambigu et de dangereux, ou alors pour montrer la tristesse. La tristesse, lorsque les événements dramatiques suivent un cours qui est malheureux, lorsque dans les arias on commente ça, il y a des chromatismes descendants. Cette catabasis concentrée qui est le chromatisme. Il était fasciné par ça, Bach, ce qui donne, dans la grande analyse de l'histoire de la musique tonale, un arc, encore une fois, qui va du classement bien tempéré, ou alors de l'offrande musicale. Vous avez ce thème qui n'a pas été composé par Bach, curieusement, il a été composé par les rois. C'est des centres chromatiques et très, très, très longues. Et lui, il construit une œuvre monumentale avec ça. Donc, ce chromatisme, qui est finalement la base de la théorie des 12 sons, s'amène à Schoenberg. C'est pour ça qu'on peut dire là toute l'histoire du système tonal est là, elle est contenue. Donc les chorales incluent tout ça. Il y a des chromatismes, il y a les modulations, il y a les tonalités voisines, bien sûr. On ne va pas moduler comme modulait Brahms ou Wagner, parce que justement quand on module à l'extrême, on se perd, et c'est ce qui est Schoenberg a tiré la conclusion logique. C'est-à-dire, si on arrive chez Wagner à 7 degrés des modulations incroyables, où on ne sait pas où on est. Au début du Tristan et Isolde, on ne sait pas où on est. C'est un accord qui est incompréhensible dans tout système tonal. C'est une double appoggiature, en fait, une double dissonance. Il y a beaucoup de dissonance dans les chorales. Hein. Si vous arrêtez un peu, il y a beaucoup de frictions, hein, des secondes qui ne sont pas résolues tout de suite. C'est ça. C'est le début du mouvement de la 9e symphonie de Beethoven. C'est un cluster. Cluster, il y a les 7 notes qui sont là. Et évidemment, cet accord de Tristan et Isolde qui conduit à l'atonalisme de Schoenberg. C'est comme quoi tout est contenu dans les plus humbles chorales du maître. Oui, madame.
Les chorales, donc les fidèles chantaient. Quelle voix est-ce qu'ils chantaient? Ils chantaient la partition
de... Ils chantaient le haut.
Oui, c'est ça.
Mais
qui chantait le reste?
Mais Mais pas seulement. Je pense que les gens avaient une culture musicale et auditive qui les rendait capables de faire les voix. Alors comment ils se débrouillaient pour que ce soit si équilibré comme vous la faites, je ne sais pas. Mais
peut-être que ce ne l'était pas.
Hein? Peut-être
que ce n'était pas très équilibré, mais bon, ce n'était pas important en fait.
Il y avait le soutien de l'orchestre et du chœur qui faisait sans doute les autres voix, mais pour que le fidèle se retrouve, c'était les mélodies qu'il connaissait.
Oui.
Ce sont des airs que tout le monde connaissait, que tout le monde chantonnait. Et c'est pour ça qu'elles sont si simples, les voix de soprano. Enfin, si simples. Mais elles sont très audibles, et les autres voix, c'est plus complexe, parce qu'elles sont au milieu, elles s'entremêlent. Et que les contrepoints, lorsqu'ils sont presque fugués, lorsqu'il y a des imitations, c'est très discret. On ne nous noie pas. Donc, chose que Bach savait faire à merveille, c'est l'art de la fugue ou les claviers bien tempérés, mais il ne fait pas ça là, il n'y avait pas besoin. C'est pour ça qu'on dit que là où les contrepoints, qui est la grande tradition de la Renaissance, hein, de Palestrine, les contrepoints et l'harmonie, c'est-à-dire les contrepoints, c'est la partie horizontale, ce sont des voix qui évoluent, qui montent, qui descendent, qui s'entrecroisent. Il y a beaucoup de mouvements contraires, hein, c'est-à-dire chiasme. Dans la théologie, et l'harmonie qui est l'aspect vertical, la superposition des notes, c'est-à-dire les accords, ils sont parfaitement équilibrés dans les chorales de Bach. Parfaitement équilibrés, il n'y a pas un qui passe par-dessus l'autre. Et là, on a encore une fois cette symbolique de la croix, l'horizontale et les verticales qui sont à la perfection concentrées. La croix. Dans le système tonal, c'est ça pour Bach, c'est-à-dire c'est là où les voix sont parfaitement compréhensibles, chacune par elle-même, mais elles s'harmonisent parfaitement quand elles sont chantées à quatre voix. Il ne faut pas que l'une soit privilégiée sur l'autre. La dimension horizontale qui est le plan humain, la dimension verticale qui est le plan de Dieu, ou on peut le voir aussi à l'inverse, où la dimension temporelle est celle de l'éternité, la dimension de l'infini et du fini, et voilà.